Radio Star.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est maintenant. L'escale reportage en Autriche où l'apprentissage est largement développé alors que chez nous, il peine à séduire les jeunes. Sous les radars de l'actualité, Virginie Pironon, une condamnation au record aux États-Unis, un héros en Afghanistan et de l'art original à Londres. L'écologie, l'environnement dans le monde, Rosalie Lafarge et les dangers des biocarburants. 18h55, l'édito diplo de Claude Guibal, l'avenir de la Syrie et une loi du régime Assad qui organise un nettoyage ethnique. Mais tout de suite, les inégalités économiques sur notre planète, état des lieux, comment les réduire ces inégalités et quelles conséquences politiques si on ne le fait pas.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
C'est un rapport qui fait plus de 500 pages. Il est publié au Seuil, le rapport 2018 sur les inégalités mondiales, ouvrage coordonné entre autres par Thomas Piketty et Lucas Chancel. Lucas Chancel est notre invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Alors revenons sur cet épais document, ce rapport de plus de 500 pages. Comment avez-vous procéder pour établir ce diagnostic des inégalités sur la planète? C'est un travail monumental.
Il s'agit d'un rapport qui regroupe les travaux en fait d'une centaine de chercheurs répartis sur tous les continents. Donc on a des chercheurs en Amérique latine, en Asie, en Amérique du Nord. Et finalement, il s'agit de récolter des données systématiques de manière totalement transparente sur l'évolution des inégalités dans tous les pays du monde.
Mais alors, ces inégalités économiques, est-ce qu'elles sont inévitables?
Alors, ce que montre le rapport, justement, c'est que depuis 1980, on observe une hausse des inégalités dans à peu près toutes les régions du monde. Seulement, cette hausse des inégalités ne se fait pas au même rythme partout. Et le fait qu'on observe des trajectoires différentes nous montre justement qu'il n'y a pas d'inéluctabilité dans cette hausse des inégalités de revenus ou de patrimoine.
Mais à partir de quel moment, selon vous, de quel niveau les inégalités peuvent-elles devenir acceptables, légitimes?
Alors déjà, un premier point, il ne s'agit pas dans cet ouvrage de déterminer quel est le niveau optimal d'égalité ou d'inégalité dans une société. Si on revient finalement au pacte fondamental de notre société démocratique en France aujourd'hui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1 nous dit quoi ? Nous dit que les distinctions sociales, c'est-à-dire les inégalités, doivent être basées sur l'utilité commune, c'est-à-dire qu'elles doivent être justifiées au regard de l'utilité commune. La question depuis 200 ans, c'est de savoir entre 100% d'inégalité et 100% d'égalité, où est-ce qu'on place le curseur? Nous, on n'a pas de réponse définitive là-dessus. Nous, notre objectif en tant que chercheurs, c'est de montrer d'où est-ce qu'on vient et vers où est-ce qu'on va si les tendances se prolongent. Cela dit, ce qu'on est en mesure de dire, c'est que le compromis d'économie mixte, grosso modo, dans les sociétés occidentales entre les années 50 et les années 1980, qui était un compromis avec une dose de fonctionnement de marché et de régulation de par la puissance publique, générait un niveau d'inégalité, un niveau d'égalité qui semblait plus ou moins acceptable, et que depuis les années 80, il y a une hausse qui est extrême aux États-Unis, il y a une hausse qui est modérée mais assez nette en Europe, et que cette hausse peut aboutir à des niveaux d'inégalité qui sont extrêmement inquiétants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut avoir des phénomènes de captation du pouvoir politique, de captation des choix de politique économique qui peuvent déboucher sur des catastrophes économiques, politiques, de toutes sortes.
Mais Lucas Chancel, la pauvreté, elle recule dans le monde. Près de 3 milliards de personnes ont rejoint ce qu'on appelle la classe moyenne mondiale. Donc les inégalités, elles reculent.
Alors en fait, il y a plusieurs faits, plusieurs idées reçues qu'on entend régulièrement dans le débat public ou dans le débat académique sur les liens entre la mondialisation et ses impacts sur les inégalités. Et une première idée reçue, c'est de se dire que les inégalités sont en baisse dans le monde depuis les années 80, depuis la forte croissance qu'on observe en Chine ou en Inde ou dans d'autres pays émergents. Ce qui ressort de ce livre, données à l'appui. Donc c'est la première fois que ce travail est fait par des chercheurs de tous les pays de manière totalement systématique et transparente. Ce qui ressort de ce livre, c'est qu'on n'observe pas de baisse des inégalités dans le monde. Pourquoi ? On ne remet pas en question la forte croissance qu'il y a eu, notamment chez les classes populaires, chez les classes moyennes chinoises. Seulement, dans ces pays-là, en Inde, en Chine, en Russie, au Brésil, les 1% les plus aisés ont bénéficié de taux de croissance extrêmement forts. En Europe, aux États-Unis, les 1% les plus aisés ont également bénéficié de taux de croissance extrêmement forts. Donc même si les revenus moyens entre le monde riche et le monde émergent, même si les revenus moyens se sont rapprochés, les inégalités entre individus dans le monde, elles, ont progressé depuis 1980. C'est l'un des premiers résultats de cet ouvrage. Et juste pour vous donner un chiffre là-dessus, sur la période, les 1% les plus riches du monde ont capté 27% de la croissance totale, c'est-à-dire de tous les nouveaux euros, de tous les nouveaux yuan, de tous les nouveaux roupies qui ont été créés depuis 1980. Tandis que pendant cette période, les 50% les plus pauvres ont capté seulement 10% de la croissance totale.
Alors on va parler de l'Europe. En Europe, les inégalités ont clairement augmenté moins vite en Europe qu'ailleurs. Pour quelles raisons ?
Bien, pour le dire simplement, l'Europe a résisté finalement à cette tendance qu'on observe dans d'autres pays, qui est de passer de marchandiser tout un tas de secteurs de la société, de l'économie. Donc l'Europe a réussi à davantage protéger les classes populaires et les classes moyennes grâce à un système d'accès à l'éducation plus ou moins universel, mais on voit que ça s'est remis en question dans certains pays, grâce à un système d'accès à la santé universel, mais on voit aussi qu'il y a des tensions là-dessus, grâce à une fiscalité qui est plus progressive, en tout cas dont la progressivité de la fiscalité a moins baissé en Europe qu'aux États-Unis, mais on voit ici encore que c'est en débat aujourd'hui en France. Donc l'Europe jusque-là a réussi à préserver un modèle social plus protecteur qu'ailleurs, mais c'est évidemment l'enjeu du débat politique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'Europe va continuer à préserver ce modèle-là, ou alors va suivre finalement la voie qui est indiquée par les États-Unis notamment.
Lucas Chancel, est-ce qu'il y a un chemin européen pour réduire les inégalités ? On peut aller jusque-là ?
Si vous voulez, prenons un exemple concret, qui est la question de l'impôt sur les sociétés. On observe depuis 30 ans qu'il y a une sorte de course vers le bas au taux d'imposition sur les sociétés, où les différents pays européens se font une sorte de petite guerre intestine là pour attraper finalement les investissements sur leur sol, pour attraper les multinationales sur leur sol. Et finalement, en termes de taxation, l'imposition sur les sociétés, c'est les Européens qui ont inventé une course vers le bas qui finalement va aboutir dans certains pays à 0% d'impôt sur les sociétés, et puis certains pays vont se mettre à subventionner les sociétés pour qu'elles viennent sur leur sol. Et sur ce domaine-là, juste sur ce domaine-là, c'est les Européens qui ont lancé la danse. Et aujourd'hui, les États-Unis, avec la dernière réforme Trump, ne font que copier ce que les Européens ont fait depuis 30 ans. Donc sur l'impôt sur les sociétés, on ne peut pas dire que les Européens soient très vertueux. Par contre, sur les autres dimensions qui sont l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, jusqu'à présent, les Européens ont fait mieux que les Américains. Mais ça ne veut pas dire que la tendance qu'on est en train de prendre est nécessairement la bonne pour les 10, 20, 30 prochaines années.
Il y a un chapitre passionnant dans ce rapport consacré à l'essor de la propriété privée en Russie. Là, ça va très bien.
Alors, remettons ça dans un contexte plus général, qui est que depuis la fin des années 70, dans les pays émergents comme dans les pays riches, on observe une envolée de la propriété privée, et on observe un déclin de la propriété publique. Alors, c'est évidemment pas étonnant dans un pays comme la Russie, quand on sort du communisme, quand on passe à une société plus ouverte à une économie de marché, où on voit que là, on va avoir des grands transferts de propriété publique vers la propriété privée. On observe aussi d'importants transferts dans les pays riches, du fait de politiques de privatisation, du fait de la montée de la dette. Qui détient la dette ? En partie les États étrangers et en partie les acteurs privés. Et donc, on est dans une situation qui est exceptionnelle aujourd'hui au regard de l'histoire économique, notamment dans les pays riches, où finalement, la part de la richesse publique dans le patrimoine total, donc dans le capital total, dans la richesse totale, est aujourd'hui de 0%. De 0%. On était à 30% à la fin des années 70, on est aujourd'hui à 0%.
Un mot, quelles sont les catastrophes que vont provoquer ces inégalités si on ne les corrige pas ?
Alors, du point de vue économique, une société extrêmement inégalitaire, c'est une société qui ne fait pas nécessairement les bons investissements. C'est-à-dire que les investissements dans les services publics sont pas faits. On regarde les États-Unis, on a un système de transport, d'éducation, de santé qui est défaillant. Bah, c'est en partie lié au fait que une partie de la population capte la richesse, mais capte aussi le pouvoir politique, capte aussi le pouvoir médiatique, et elle n'a pas du tout intérêt à investir dans les services publics.
Alors, quelles seront les conséquences ?
Donc on a tout un tas de conséquences qui sont à la fois sociales, en matière d'éducation, à la fois de santé. Donc on a des sociétés qui sont plus malades que d'autres. Il y a des travaux en économie de lien avec l'épidémiologie et les inégalités qui montrent que les sociétés plus inégalitaires sont des sociétés plus stressées. Ce sont des sociétés qui développent davantage de maladies chroniques, obésité, certaines formes de cancer. Puis on a aussi tout ce problème démocratique finalement, qui est que certains individus vont pouvoir capter une part d'accès au débat public avec un monde des médias extrêmement concentré. Et là, il n'y a pas besoin de regarder les États-Unis pour ça. On peut regarder notre pays, la France, où on a un système médiatique qui est concentré dans les mains de quelques actionnaires.
Alors un point important dans ce rapport, les remèdes. Et vous en proposez plusieurs. Par exemple, le rôle de l'impôt progressif. Donc pour réduire les inégalités, l'impôt.
Donc il faut voir deux dimensions dans les tendances qui sont exposées dans ce rapport, avec première dimension l'explosion des inégalités au sommet de la pyramide. Donc ça c'est l'explosion, l'envolée des 1% les plus riches. Et pour ça, l'impôt progressif, c'est une solution qui est extrêmement efficace, qui est extrêmement utile, et on voit une baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu et sur le patrimoine, une baisse globale des années 80 à aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier élément à débattre. Et finalement, la tendance qui est prise depuis un an en France va plutôt dans la poursuite de ce tournant néolibéral des années 80 plutôt qu'avec l'idée d'inverser cette tendance-là. Mais il y a aussi un autre élément qui est la stagnation des revenus des classes populaires et d'une partie de la classe moyenne. C'est un phénomène qu'on observe extrêmement bien aux États-Unis. Pour ça, l'impôt progressif ne peut suffire. Et donc, il faut des investissements extrêmement importants dans l'éducation, dans la santé. Il faut aussi réfléchir à comment garantir à tous d'accéder à des emplois bien payés et de qualité. Pour faire ça, ces investissements, on a besoin de les financer. Et donc, c'est comme ça qu'on connecte la discussion sur la progressivité fiscale et la discussion sur les services publics. On ne peut pas déconnecter ces deux sujets.
Dans ce rapport, vous parlez de la fiscalité, élément essentiel pour lutter contre les inégalités, mais il y a l'évasion fiscale et vous proposez un cadastre financier mondial.
Alors,
comment ça marcherait, ça ?
Effectivement, l'un des enjeux essentiels mis en avant par cet ouvrage, c'est le besoin de transparence. Nos sociétés démocratiques ont besoin de transparence pour pouvoir débattre sereinement de toutes ces questions. Et sur les données d'inégalité de patrimoine, aujourd'hui, on navigue en tant que chercheur dans un océan qui est parfois flou parce que les États ne transmettent pas toutes ces données, ne se transmettent pas entre eux toutes ces données parce qu'il y a des pratiques d'optimisation, d'évasion fiscale, que nous on essaie de reconstruire ces tendances, ces évolutions, mais qu'on est encore très loin de bien mesurer toutes ces évolutions. Alors des fois, on utilise les données issues de leaks, les Paradise Papers par exemple, sont des données qu'on va mobiliser dans nos enquêtes pour voir comment évoluent les inégalités. On se rend compte que évidemment, quand on inclut ces pratiques d'évasion fiscale, eh bien ça va augmenter le niveau d'inégalité par rapport à ce qu'on mesurait avant. La proposition pour la présenter très rapidement consiste à se dire qu'en fait aujourd'hui, il y a quelques acteurs privés qui détiennent les informations sur qui détient quoi, qui détient quel actif financier. Quelques acteurs privés qui sont nécessaires au bon fonctionnement des marchés financiers, puisque quand une transaction se fait, il faut savoir qui détient quoi. Eh bien, il s'agit de créer en fait un service public de cette donnée-là. Et cette donnée ne doit pas être uniquement aux mains de quelques acteurs privés, mais au sein d'un acteur public que les administrations fiscales nationales pourront aller questionner pour savoir à qui détient cet actif. Et ça nous permettra au passage d'éviter des situations comme celles qu'on observe aujourd'hui, notamment dans l'actualité, avec un grand chef d'entreprise française qui semble embêté pour des histoires de potentiellement corruption en lien avec ses actifs à l'étranger.
Vous connaissez cet argument qu'on entend très souvent: pour réduire les inégalités, il faut relancer l'activité économique et donc permettre aux plus riches d'investir et donc ne pas trop les imposer, les taxer.
Donc ça, c'est On pourrait dire que c'est l'une des autres idées reçues sur la mondialisation.
Et vous ne la retenez pas.
Bah, finalement, ce qu'on observe dans ce rapport, derrière cette idée-là, c'est l'idée du ruissellement, finalement. C'est l'idée que pour que les classes moyennes, les classes populaires voient leurs revenus augmenter, alors il faut qu'on observe une croissance forte au sommet de la pyramide. Et tout ça, ça va ruisseler vers le bas. Ce que montre le rapport, c'est que les pays où il y a eu la plus forte croissance au sommet de la pyramide, ce n'est pas du tout les pays où il y a eu une forte croissance en bas de la pyramide. Et le contre-exemple extrême, c'est les États-Unis, où les 50% du bas de la population américaine ont vu le revenu stagner depuis 1980. Alors que les 1% du haut, ils ont cru, eux, à 2%, 200%. Donc le ruissellement, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on observe aujourd'hui.
Lucas Chancel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle la parution aux éditions du Seuil de ce rapport, ce document de 500 pages, rapport sur les inégalités mondiales en 2018. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter. Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Restez avec nous à suivre dans Un jour dans le monde jusqu'à 19h. Virginie Pironon sous les radars de l'actualité. Escale reportage en Autriche où l'apprentissage est largement développé. L'environnement dans le monde, c'est comme ça le mardi avec Rosalie Lafarge. Bonsoir Rosalie.
Bonsoir.
De quoi on parle ?
On parle d'huile de palme, mais pas dans l'industrie agroalimentaire, dans nos voitures. Ça peut paraître plus vert sur le papier, sauf que derrière, ce sont des millions d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent.
À tout à l'heure, Rosalie, l'édito Diplo, 18h55, Claude Guibal. Bonsoir Claude.
Bonsoir Pierre.
La Syrie, et là-bas, on prépare un nettoyage ethnique législatif.
Oui, en fait, le régime est en train de mettre en place un véritable redécoupage absolument redoutable du pays, qui risque de faire basculer de façon dramatique l'avenir de millions de réfugiés. On se retrouve effectivement tout à l'heure à 18h55, je vous explique ça en détail.
Merci Claude. Les musiques lascives, un peu blues, un peu sensuelles de Ndidi O, He Needs Me, c'était en 2009.
And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Or maybe it's because he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. Like a dime a dance, I'll take a chance, I will, because he needs me. No one ever asked before, because they never needed me. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, 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 he needs me.
Me. Vous écoutez Un jour dans le monde, c'est France Inter, 18h36. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra de la Tula. Desservi pour il faut. 60 minutes.
Sous les radars de l'actualité avec Virginie Pironon. Virginie, direction d'abord avec vous, Washington.
Washington, où Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État. Washington, où hier, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel d'un homme condamné à 241 années de prison. 241 années de prison, Pierre, vous avez bien entendu et devez vous dire c'est un dangereux criminel. Alors pourquoi a-t-il été condamné ? Pour des vols à main armée. Retour en arrière. 1997 à Saint-Louis, dans le Missouri, Bobby Bostick n'est qu'un ado, il a 16 ans. Un jour, le 12 décembre, avec un copain, il dérape et commet en une seule journée une série de violents vols à main armée. Tous deux s'en prennent à un groupe de personnes venues remettre des cadeaux de Noël aux nécessiteux du quartier. Bobby tire sur l'un d'eux, qui est éraflé par la balle, avant de s'emparer d'une voiture en agressant sa conductrice. Au total, 18 infractions pénales. La juge de la ville de Saint-Louis prend la décision de cumuler les peines et non pas de les confondre. Et on en arrive donc à ce résultat ahurissant de 241 années de prison. Cette magistrate, Evelyn Baker, se bat désormais pour faire sortir Bobby Bostick de sa cellule. Elle s'est confiée à la chaîne NBC News.
We treated children like we treated adults.
On traitait les enfants comme les adultes.
Bobby Bostick deserves.
Bobby Bostick mérite une chance de montrer qu'il peut être intégré à la société. Il a vécu, il a appris, et ce que je lui ai fait, c'était une erreur.
Bobby didn't kill anybody. He's a good man, and he needs to be a free man.
Les larmes de la juge Evelyn Baker, alors que Bobby, qui frôle aujourd'hui la quarantaine, a déjà passé plus de temps en prison qu'à l'extérieur, mais sans rancune. À l'époque, je n'avais pas de direction, ça m'a coûté ma vie. Mais je ne suis pas la victime, donc pas de raison d'être amère. Dans son appel à la Cour suprême, Bobby Bostick demandait à être rejugé. C'est donc refusé. Pourtant, depuis 2010, il est interdit aux États-Unis de condamner une personne mineure au moment des faits à la perpétuité. Mais les procureurs estiment qu'il a été condamné non pas à la perpétuité, justement, mais à une très longue peine. Et ça change tout. Avec un peu de chance, Pierre, il peut compter sur une libération conditionnelle à l'âge de 112 ans.
On part maintenant, Virginie, pour l'Afghanistan.
Avec cet incroyable portrait et cet hommage que les habitants de Kaboul rendent depuis dimanche à un de leurs héros. Dimanche, les rues de la capitale afghane ont une nouvelle fois été ensanglantées. Une attaque suicide a fait au moins 57 morts, une centaine de blessés. Et parmi les victimes, Wakil Hussein Al-Haddad, 32 ans, connu sur place pour, à chaque attentat, tout laisser tomber pour porter secours aux victimes. Dimanche, il était occupé à servir ses clients dans sa boutique de photographie, juste de l'autre côté de la rue. Quand l'explosion a eu lieu, il a été blessé au visage et ne s'en est pas remis. Depuis, des photos de ce colosse qui pratiquait la lutte, père de 4 enfants, ont fleuri un peu partout sur les murs du voisinage. De nombreux Afghans cités par l'AFP inondent depuis les réseaux sociaux de messages d'admiration saluant un vrai héros et un homme courageux. Il était là, écrit un internaute, comme un roc derrière les siens.
Et on respire un grand coup, Virginie Pironon, à Londres, une installation artistique pour respirer l'air pollué des grandes villes.
Oui, on respire à condition de ne pas être asthmatique. Hein. Exposition jusqu'à demain devant la Somerset House. Il s'agit d'une installation de l'artiste britannique Michael Pinsky, intitulée Pollution Pods, traduction capsules de pollution. Ce sont en fait 5 grandes bulles transparentes, reliées les unes aux autres par une sorte de tunnel, bulles dans lesquelles les visiteurs peuvent respirer l'air de Londres, Pékin, Sao Paulo, New Delhi, la ville la plus polluée, et Totra, c'est une péninsule reculée de Norvège où il y a là de l'air pur. Une façon décalée pour Michael Pinsky de sensibiliser le public à la pollution des grandes villes. Il explique que pour lui, il a tout de suite été clair que montrer des ours polaires en voie de disparition ou des glaciers en train de fondre ne fait pas changer les gens de mode de vie. C'est ce qui les touche tous les jours qui les fait changer. Et à l'intérieur, vous l'entendez peut-être, ça tousse, certains éternuent. Au menu, ozone, particules fines, dioxyde d'azote, de soufre, monoxyde de carbone. Alors rassurez-vous, hein, ce sont des odeurs reconstituées. L'artiste affirme ne pas avoir utilisé de composés dangereux. Une installation qui rappelle qu'à Londres, 9000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution. Et dans le monde, plus de 90% de la population désormais respirerait un air qui dépasse les limites acceptables pour la santé.
Virginie Pironon, sous les radars de l'actualité, c'est à réécouter sur le site de l'émission Un jour dans le monde, franceinter.fr. Virginie, vous revenez demain ?
À demain.
Ah, super.
France Inter, le 18-20.
L'Autriche, notre escale reportage ce soir. Dans le secteur de l'apprentissage, ce pays est bien en avance sur nous. 45% des 15-19 ans autrichiens sont apprentis. En France, seulement 7% des 16-25 ans. Pour changer les choses, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a lancé cette semaine une campagne d'information en faveur de l'apprentissage. En ligne avec nous, Isor Yas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en Autriche et vous avez enquêté sur ce système d'apprentissage autrichien, son fonctionnement. Nous sommes avec vous à Vienne, la capitale.
C'est dans le centre de la capitale autrichienne qu'Edris, 17 ans, travaille 4 jours par semaine depuis 2 ans. Dans une petite entreprise, le jeune homme apprend le métier de couvreur. L'apprentissage, c'était une évidence pour ce jeune garçon né en Afghanistan et arrivé en Autriche à l'âge de 7 ans.
J'ai toujours voulu faire un travail manuel car c'est agréable de savoir faire les choses soi-même. C'est très pratique au quotidien, y compris à la maison. Pour moi, l'apprentissage est une très bonne chose. Ça permet d'acquérir de l'expérience très tôt et d'être plus indépendant. Moi, je gagne environ 900 euros par mois et avoir mes propres revenus me permet de ne plus dépendre de l'argent de mes parents.
Comme lui, 130 000 jeunes sont aujourd'hui apprentis en Autriche. Mais tous les élèves n'ont pas eu le parcours scolaire sans faute d'Edris. C'est pourquoi, il y a 10 ans, le pays a adopté une loi qui garantit à tous les jeunes un droit à l'apprentissage. Ceux qui ne trouveraient pas d'entreprise à cause de leurs mauvaises notes à l'école sont formés dans des ateliers publics financés par l'État autrichien. Il existe plusieurs centres de ce type à Vienne. Nous nous rendons dans l'un des plus grands, celui de Floridsdorf, tout au nord de la capitale. Dans un immense hangar, différents ateliers se côtoient, carrosserie, mécanique, horlogerie et même cuisine.
Là, nous préparons des schnitzels. Il faut aplatir l'escalope, la paner et la frire.
Ibrahim est l'un des 350 jeunes formés dans ce centre et l'un des 9 apprentis de l'atelier cuisine.
J'ai arrêté l'école avant d'obtenir mon diplôme, donc c'est vraiment une chance pour moi d'être ici aujourd'hui. Là, je vais pouvoir aller au bout de ma formation professionnelle, c'est super. À l'école, on devait rester assis 9 heures par jour, alors qu'ici, on bouge beaucoup, on travaille. C'est ce dont j'ai besoin pour mon avenir, ça me prépare au monde du travail.
La plupart des jeunes ici ont le profil d'Ibrahim. Ils arrivent à l'âge de 15 ou 16 ans, souvent après un échec scolaire. Ils ont donc peu d'expérience. Ces ateliers publics leur permettent d'apprendre un métier pendant 3 ans, mais aussi de se confronter aux règles du travail, comme l'explique Birgit Beckare-Wippel, formatrice de l'atelier couture.
Nous essayons dès l'apprentissage de leur apprendre la ponctualité, car c'est très important pour leur avenir dans le monde professionnel. Nous commençons donc le travail assez tôt, à 7 heures du matin. Celui qui ne vient pas ou qui arrive trop souvent en retard ne fera pas long feu et plus tard, il perdra rapidement son emploi. Ici, ce sont des élèves particuliers qui avaient des difficultés à l'école. Maintenant, ils ont la possibilité d'être intégrés à la société comme tout un chacun et je pense que les apprentis qui sont vraiment motivés trouveront un travail après.
Comme leurs collègues formés dans le privé, les apprentis de ces ateliers sont payés entre 300 euros par mois la première année et 700 euros leur dernière année. Leur formation est entièrement prise en charge par l'État autrichien. Un investissement nécessaire selon Bernhard Braun, le responsable de l'apprentissage du centre de Floridsdorf.
En tout, le coût de la formation s'élève à environ 15 000 euros par élève. C'est un investissement qui, selon moi, se justifie et même qui est nécessaire. Car que peuvent faire les jeunes qui ne trouvent pas de place en apprentissage? Ils vont essayer de chercher un travail non qualifié. Ce qui est sûr, c'est que sans diplôme, ils ont plus de risques d'entrer dans un chômage de longue durée. Alors que 60% de jeunes passés par nos ateliers publics trouvent un emploi après leur formation. Ils ne travaillent pas forcément dans le domaine qu'ils ont étudié, mais ils trouvent un emploi, parfois dans une autre branche.
Ce Selon l'AMS, l'équivalent de Pôle emploi, le système d'apprentissage en Autriche permet clairement de réduire le taux de chômage des jeunes. Un apprenti a ainsi 3 fois plus de chances de trouver un emploi qu'un jeune s'étant arrêté juste après l'école obligatoire. Un système qui participe au bon fonctionnement économique du pays, selon Herbert Bohringer, directeur de l'AMS.
La force de l'économie autrichienne vient en grande partie de nos ouvriers qualifiés, formés en apprentissage. En Autriche, beaucoup d'entreprises fournissent des produits et des services de grande qualité, car la main-d'œuvre qu'ils emploient est très compétente, habituée à respecter un cahier des charges exigeant et habituée à travailler avec des machines modernes. C'est grâce à cela que l'Autriche peut produire des biens de qualité, grâce à cette main-d'œuvre hautement qualifiée qui fait notre force d'un point de vue économique.
Le taux de chômage des jeunes est d'environ 9,6% en Autriche. C'est 2 fois moins élevé qu'en France, à titre de comparaison, et près de 6 points en dessous de la moyenne européenne, selon les données publiées par Eurostat.
Voilà, reportage en Autriche de notre correspondante Isor Yass. On va écouter un groupe français, Heur, 2 musiciens qui font une musique alors exceptionnelle. Ils ont beaucoup écouté le rhythm and blues américain, ils l'ont décortiqué, assimilé, ils s'en sont imprégnés. Le résultat est sidérant de qualité. Neighborhood.
Neighbor, beyond the wall. What's happened to our home? We live amongst the rockets. Rockets I used to own. Underneath the dome, land in a playground. Oh, and please, Lord, save my soul. Forgive me for my role. Change our target. Other. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before our time is gone.
Que c'est bien. Les musiques qu'on aime sur France Inter, le groupe Heur avec Neighborhood, il est 18h50.
France Inter.
Climate change is real.
Pierre Veil.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et le mardi, dans Un jour dans le monde, à cette heure-ci, on parle écologie, environnement dans le monde. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Une question, et si les effets des biocarburants sur le climat étaient en fait pires que ceux du pétrole? On consomme de plus en plus d'huile de palme dans le monde, mais pas seulement dans nos assiettes, Rosalie. On s'en sert pour faire avancer les voitures. Et derrière, ce sont des forêts entières qui disparaissent.
Oui, quand on parle d'huile de palme aujourd'hui, on pense pâte à tartiner, cosmétique, rarement carburant. Et pourtant, la moitié des 7 millions de tonnes d'huile de palme consommées chaque année en Europe passerait dans les réservoirs des camions et des voitures, dans des pleins de diesel. En France, ce sont même les 3/4. Et d'après Laurelou Desjardins, chargée de campagne pour l'organisation norvégienne Rainforest Foundation, ça n'est qu'un début.
Au niveau mondial, ça va être, selon nos prévisions, utilisé de plus en plus sur l'énergie, notamment à cause des objectifs de l'Union européenne, des objectifs du secteur de l'aviation, parce que ça a été déclaré à un moment, peut-être d'absence, je ne sais pas, comme une bonne alternative à l'utilisation du pétrole.
Sauf qu'on est loin, très loin de la bonne alternative, selon Sylvain Angeran de l'association Les Amis de la Terre.
La culture du palmier à huile, c'est la principale cause de déforestation en Indonésie et en Malaisie, les deux principaux pays producteurs. Toutes les études scientifiques convergent et montrent que l'huile de palme, c'est le pire des biocarburants. Ça a un impact 3 fois pire que le diesel fossile.
Avec la déforestation, ses conséquences sur le climat, puisque les forêts, surtout tropicales, sont des pièges naturels à carbone. Ses conséquences aussi sur la biodiversité. La population d'orang-outans, par exemple, décline à vitesse grand V en partie parce que son habitat naturel, la forêt, disparaît. Ça fait cher le carburant vert.
Rosalie Lafarge, c'est un sujet dont on discute en ce moment au niveau européen.
En janvier, le Parlement européen s'est dit pour l'élimination progressive de l'huile de palme dans les carburants d'ici 2021, mais il faut maintenant que ça se traduise concrètement. Et ça, effectivement, ça se discute entre Parlement, Commission et Conseil européen. Sauf que rien n'est jamais simple quand les enjeux climatiques se frottent aux considérations économiques. La Malaisie met dans la balance la perspective d'achat de 18 avions Rafale pour 1,5 milliard d'euros. Mathieu Orphelin, député La République En Marche, vient de co-signer une tribune pour demander à la France de se montrer ferme et cohérente.
Il va falloir tenir bon, effectivement, dans les négociations de commerce international, parce qu'en face, il y a deux pays, l'Indonésie et la Malaisie, qui veulent continuer à exporter l'huile de palme sans restriction. Donc il faut que la France participe, parce que l'Europe est une position forte sur le sujet, pas d'huile de palme pour faire rouler nos véhicules, ça n'a aucun sens.
Et que dire alors du projet de bioraffinerie de Total à La Mède dans les Bouches-du-Rhône, prévu pour entrer en service cet été? Elle devrait importer chaque année 550 000 tonnes d'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie pour les transformer en carburant. De l'huile de palme certifiée durable, assure Total, ça ne règle pas le problème, répond Sylvain Angeran des Amis de la Terre.
Ça déplace simplement le problème ailleurs. Si votre demande continue d'augmenter, l'Europe va se donner bonne conscience en achetant de l'huile de palme certifiée, mais la Chine, l'Inde et tous les autres pays consommateurs vont les cultiver dans les forêts. La vraie question qu'on pose, nous, c'est comment on fait pour répondre à la demande mondiale de tous les pays sur les plantations existantes et éventuellement sur les terres dégradées qu'il faudrait réhabiliter. Mais ça, de fait, ça pose une limite. Ces surfaces-là, elles sont limitées. Donc, il faut qu'on se pose la question d'une demande limitée.
Avec les projets de Total, mais aussi de Eni en Italie ou de la compagnie pétrolière Neste en Finlande, selon les associations, ce sont 45 000 km² de forêt tropicale et la taille des Pays-Bas qui risque de disparaître d'ici 2030, rien qu'en Asie du Sud-Est, pour faire rouler nos voitures à l'huile de palme.
Mais on ne va quand même pas tout arrêter pour revenir au pétrole. On a d'autres pistes, Rosalie ?
Oui, et idéalement, les ONG voudraient qu'on arrête d'utiliser tout ce qui peut servir à l'alimentation pour le mettre dans nos moteurs, l'huile de palme, mais aussi le colza ou la betterave. Pour Laurelou Desjardins de l'organisation Rainforest, il est grand temps de passer au biocarburant de deuxième génération.
En Norvège, le compost de tous les habitants de la ville d'Oslo est récolté pour mettre dans les bus. Je veux dire, on n'a pas besoin de produire des cultures agricoles pour mettre dans des voitures ou des bus. On a beaucoup de déchets. Déjà, on peut commencer par ça. Et puis après, effectivement, il faut investir. C'est-à-dire, c'est plus facile d'utiliser des terres agricoles déjà présentes et de mettre ça dans des voitures. Mais il faut penser un peu à demain. Donc, il faut commencer un peu à investir.
Investir dans de nouvelles solutions vraiment plus durables. Investir aussi dans des politiques de réduction de la place de la voiture pour diminuer plus globalement les besoins mondiaux en carburant.
Rosalie Lafarge, l'environnement dans le monde. Merci, Rosalie.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
Et voici l'édito Diplo avec Claude Guibal. Claude, édito Diplo consacré à l'avenir de la Syrie, cet avenir. On en parle aujourd'hui à Bruxelles, où la communauté internationale est réunie jusqu'à demain pour une nouvelle conférence des donateurs en faveur des millions de réfugiés syriens. On en parle aux États-Unis entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui explique qu'il faut s'attacher à bâtir une nouvelle Syrie après la guerre. Mais sur le terrain, Claude, cette nouvelle Syrie commence déjà à se dessiner grâce à une loi tout juste promulguer aux conséquences potentiellement terrifiante.
Oui, absolument, Pierre. En fait, on n'y a pas du tout prêté attention à cette loi lorsqu'elle a été promulguée. C'était il y a 3 semaines. Elle n'a pas de nom, cette loi. Elle a juste un numéro. C'est la loi numéro 10. En gros, disons que c'est un texte qui redéfinit l'enregistrement des biens, des propriétés dans de nouvelles zones administratives qui vont être prochainement annoncées par le gouvernement syrien. Alors, tout ça, ça doit vous sembler un peu obscur. Je vous explique. En fait, dans ces nouvelles zones, tous les propriétaires d'appartements, de maisons, de terrains doivent présenter aux autorités, eh bien, leur titre de propriété pour certifier que ces maisons leur appartiennent bien. Petit détail qui a toute son importance, ces gens ont 30 jours pour le faire et s'ils ne l'ont pas fait dans ce délai imparti, eh bien, les autorités peuvent se saisir de ces biens et les vendre aux enchères.
Concrètement, Claude, ça veut dire quoi ?
Alors, concrètement, Pierre, imaginez que vous êtes syrien, que vous soyez syrien, imaginez que comme plus de 11 millions de personnes, soit un habitant sur deux, vous ayez fui votre domicile. Alors peut-être, Pierre, vous êtes parti vous mettre à l'abri des bombes à l'autre bout du pays, comme plus de 6 millions de personnes. Peut-être que vous vous êtes réfugié à l'étranger, en Turquie, au Liban, en Europe ou ailleurs, comme plus de 5 millions d'autres personnes. Le jour, Pierre, si vous êtes syrien, le jour où vous êtes parti de chez vous, vous avez peut-être rassemblé les choses les plus importantes de votre vie, quelques papiers, puis vous avez sûrement tourné la clé dans la porte et gardé précieusement cette clé de votre maison en attendant le jour où la guerre finit, vous pourrez rentrer chez vous.
Mais alors cette loi, Claude, elle pourrait tout changer en fait.
Oui, parce que Pierre, comment faire pour vous présenter dans les 30 jours avec vos titres de propriété ? Je vous rappelle, vous êtes en exil, rentrer immédiatement, c'est impossible. Vous avez fui le régime, ça fait de vous un opposant. Et rentrer, cela veut dire prendre le risque de vous faire arrêter et de disparaître. Alors, bien sûr, la loi, elle est bien faite, elle vous autorise à vous faire représenter en cas d'absence, mais ça, qui pourrait bien le faire ? Parce qu'avec vous, bien souvent, c'est la famille entière qui a fui, il ne reste plus personne, et Pierre, vous êtes pris au piège, et vous allez perdre votre maison, et vous ne pourrez plus jamais, jamais rentrer chez vous.
Claude Guibal, ces zones concernées par cette loi, ce ne sont pas n'importe lesquelles.
Oui, en fait, ces zones, ce sont celles qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Syrie utile. Alors, la Syrie utile, vous savez, c'est celle où on produit, celle où il y a des ressources, celle où il y a de l'eau, des voies d'accès, ces zones dont Damas a en fait besoin. Et ce sont des zones où les affrontements ont souvent été lourds. Or, l'heure est à la reconstruction, dit le régime. Reconstruire des logements qui vont donc pouvoir être attribués à d'autres personnes que vous, une population moins rebelle, plus soumise au régime. On parle même de faire venir des chiites d'Irak, d'Iran. Bref, Pierre, en clair, on est en train de mettre en place le visage d'une nouvelle Syrie où les populations sunnites, qui sont, je vous le rappelle, les principales opposantes au régime alaouite, ces populations sunnites vont être maintenues soit hors des frontières du pays sans espoir de retour, soit dans des régions sous contrôle rebelle, comme la province d'Idlib, où ont déjà été évacués tous les rebelles d'Alep-Est, de Madaya ou de la Route. En fait, tout bêtement, il s'agit de modifier la géographie humaine. Il s'agit de créer de force des zones homogènes où les populations seraient rassemblées par unité confessionnelle ou tribale. Vous savez, cela porte un nom, Pierre. On appelle cela du nettoyage ethnique. Et en droit international, c'est même un crime de guerre.
Claude Guibal, l'édito Diplo, à réécouter sur le site de l'émission franceinter.fr. Merci Claude, à demain.